heed my words. I am Melania, Blade of Mikala. And I have never known defeat.
Existe-t-il un personnage plus mystérieux ou qui déchaîne plus les passions que Mikaela l'Empyréen? Considéré par beaucoup comme le personnage le plus puissant de l'Entre-Terre, il est entouré d'un grand nombre de zones d'ombre qui ont participé à forger la légende et l'attrait du personnage. Vous le savez, la duplicité est un thème récurrent dans Elden Ring. On peut citer Margit et Morgoth, Godfrey et Oharalu, mais il n'existe aucun personnage qui incarne aussi bien la multiplication des personnalités que Mikaela. J'ai longtemps cherché à comment traiter ce personnage et comment écrire cette vidéo, et j'ai finalement décidé de le traiter en fonction des différentes personnalités que Mikaela a incarnées au fil de sa vie. Ainsi, vous aurez probablement l'impression que je vous parle d'une personne différente à chaque chapitre. L'enfant chéri de l'Ordre d'Or, le frère jumeau modèle, le savant, Sainte Trina, le cocon. Pour autant, je vous parle bien d'un seul et même être, considéré comme le plus terrible des Empyréens. Hello à tous, c'est Ludic, et bienvenue pour plonger ensemble dans l'histoire tant attendue de Mikaela. Mikaela est l'enfant de Marika et Radagon, et est arrivé au monde aux côtés de sa sœur jumelle Malenia. De par cette ascendance, les deux jumeaux peuvent être considérés comme des Empyréens. Cela, on l'apprend en lisant la description du souvenir de Malenia. Malenia et Mikaela sont les rejetons d'une seule et unique divinité. Par cette vertu, tous deux sont des Empyréens. Cette phrase est très intéressante car elle permet d'évacuer directement le débat autour de l'origine des Empyréens. Il ne s'agit donc pas d'un statut, de quelque chose qui s'obtient ou qui se donne, mais bien une caractéristique liée à l'ascendance. Si vous êtes l'enfant d'une seule et même divinité ou d'un seul et même Empyréen, alors vous êtes à votre tour un Empyréen. C'est le cas pour Rani, qui à mes yeux est la fille seulement de Radagon. C'est le cas pour Melina, qui selon moi est la fille seulement de Marika, et c'est donc le cas pour Mikaela et Malenia, qui sont les seuls enfants connus de Marika et Radagon réunis. L'Empyréen se voit alors attribuer des deux doigts chargés de le guider, et une ombre funeste chargée de le surveiller. Problème, Mikaela et Malenia souffrent d'afflictions de naissance. Tandis que l'une est rongée par la putréfaction, l'autre est condamnée à demeurer un enfant à jamais. Mais pourquoi cette malédiction? Si on peut aisément accepter que la divinité de la putréfaction se réincarne en Malenia, après avoir été terrassée par l'épéiste aveugle, on n'a aucune info sur les origines de l'affliction de Mikaela, même si on peut supposer qu'il s'agit là encore d'une affliction liée à une divinité. Alors quelle divinité extérieure serait à l'origine de la jeunesse éternelle de ce dernier? On peut penser que c'est une question qui a motivé Mikaela et ses recherches tout au long de sa vie. Bien que son souhait le plus cher était de soigner sa sœur de son affliction, il y a fort à parier qu'il a également cherché à comprendre les raisons de sa propre malédiction et sur comment s'en défaire. Quoi qu'il en soit, Mikaela semble avoir connu une enfance heureuse et on pourrait même le considérer comme l'enfant chéri de l'Ordre d'Or. Bien qu'il soit peu fait mention de ses rapports avec sa mère Marika, il en est autrement pour la relation avec son père Radagon, puisque père et fils semblaient entretenir une relation fusionnelle. Ceci nous est bien confirmé par le biais du disque de lumière, une incantation des fondamentalistes de l'Ordre d'Or. On y lit qu'il s'agit d'un présent du jeune Mikaela à son père Radagon. Même chose sur la description du halo de lumière, un présent qu'offrit Mikaela à son père Radagon pour prouver sa gratitude. À cette époque, Mikaela vouait donc un intérêt certain au fondamentalisme de l'Ordre d'Or, et il y voyait sûrement un potentiel moyen de sauver sa sœur et de se libérer de l'influence des divinités extérieures. Cette bonne relation avec son père Radagon, elle se retrouve dans les statues que vous pouvez voir dans la zone de l'arbre sacré, où ce dernier semble enlacer ses deux enfants. Doit-on y voir un possible rejet ou une défiance de sa mère Marika? Radagon était-il plus proche de Mikaela, tandis que Marika était plus intéressée par Malenia? C'est difficile à dire, mais il est intéressant de l'imaginer. Néanmoins, si on continue de lire la description du halo de lumière de Radagon, on y lit que le jeune Mikaela renonça au fondamentalisme car ce dernier ne pouvait rien pour guérir la putréfaction qui avait frappé Malenia, ce qui marqua les prémices de l'or pur. Mikaela constata assez rapidement les limites de l'Ordre d'Or et se consacra alors à en trouver une forme plus pure. A cet égard, on peut le comparer au Masque d'Or, qui lui aussi consacra sa vie à chercher une vérité concernant cet ordre qu'il ne trouvera que lorsqu'on lui avouera la dualité Marika-Radagon. Pour rappel, l'Ordre d'Or est constitué de deux versants, la causalité et la régression, et ne peut être complet qu'en combinant les deux. Problème, ces deux aspects sont incarnés par une seule et même personne, à savoir le duo Marika-Radagon, ce qui entraîne une corruption de l'ordre. C'est ce qui tourmente autant des personnages comme le Masque d'Or ou Corinne, et c'est très probablement ce qui a poussé Mikaela à s'éloigner de ce fondamentalisme pour partir en quête d'une forme plus pure de ses concepts. Les recherches et travaux de Mikaela ont abouti à la création de l'or pur, ou unalloyed gold en anglais, à savoir l'or inaltéré. Ceci est une référence directe à l'alchimie, où l'or était très souvent altéré dans sa composition avec de l'argent ou d'autres métaux. Cet or inaltéré donna naissance à l'aiguille d'or pur, qui devait permettre en théorie de se défaire de l'influence des divinités extérieures. C'est ce qui permit notamment à Malenia et Mikaela de se défaire de leurs deux doigts et ombres funestes respectifs, bien qu'il n'en soit fait mention à aucun moment dans le jeu. Cela permit surtout à Malenia de contrer l'influence de la putréfaction écarlate, et c'est certainement des morceaux d'or pur que l'on peut apercevoir un peu partout sur son corps, comme une armure censée la protéger. L'amour que Mikaela témoigna à sa sœur Malenia entraîna une relation fusionnelle entre les deux jumeaux qui est parfaitement symbolisée par un élément qu'ils partagent, les papillons. Dans le cas de Malenia, il s'agit du papillon d'ivoine qui, d'après la légende, constituait autrefois les ailes de la déesse de la putréfaction. Pour Mikaela, on parle du papillon naissant, une créature à peine sortie de sa chrysalide. Mais l'élément intéressant est qu'il existe un troisième papillon dans l'univers d'Elden Ring, le papillon flamboyant, un papillon en incandescence perpétuelle que l'on pourrait attribuer à Melina, ce qui attesterait d'un lien clair entre ces trois personnages. Cela pourrait réhabiliter cette dernière comme étant possiblement une fille cachée de Radagon et de Marika, et cela donnerait un sens tout particulier au triple halo de lumière offert par Mikaela à Radagon et qui symboliserait alors les trajectoires différentes suivies par ses trois enfants. Une question demeure alors, pourquoi Mikaela n'a pas utilisé l'or pur pour se débarrasser de sa propre affliction? À mes yeux, la réponse est simple. L'or pur ne permet pas de supprimer les divinités extérieures, mais simplement de les canaliser. Ainsi, l'aiguille d'or pur n'a pas purgé Malenia, mais a simplement empêché ses floraisons et sa transformation en déesse de la putréfaction. On pourrait faire un parallèle avec une injection, une piqûre que l'on devrait vous faire à intervalles réguliers pour freiner une maladie. Mikaela partit donc en quête de quelque chose de plus consistant, plus puissant encore pour tenter de combattre et enfin contrer sa propre affliction et celle de sa sœur. C'est à cette époque que va naître le Mikaela savant, le génie scientifique à l'origine de l'arbre sacré, une entité végétale prenant modèle sur l'arbre-monde et qui aura vocation à long terme, et je dis bien à long terme, à le supplanter. Mais qu'est-ce qui a bien pu inspirer à Mikaela la création de cet arbre ? M'est d'avis qu'il s'agit de la civilisation de Uld, dont je vous ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Si vous voulez donc connaître tous les détails sur cette civilisation, je vous invite à aller les visionner car je resterai dans celle-ci, volontairement lacunaire. Pour résumer, j'y expliquais que l'antique civilisation de Uld avait tenté de reproduire des pousses du creuset primordial qu'elle alimentait à l'aide de son sang juvénile et sacré. Cela a été notamment confirmé par la description du bourgeon sacramentel, et c'est ce qui a certainement provoqué la colère de la volonté suprême et l'éradication de cette civilisation. Et c'est exactement ce que Mikaela va reproduire. À l'image de l'arbre-monde, il va créer l'arbre sacré qu'il va alimenter avec son propre corps, conscient que son sang juvénile et sacré, dû à sa jeunesse éternelle, va permettre à l'arbre de grandir. J'en vois certains parmi vous qui regardent la vidéo sans être abonnés, sachez que si vous vous abonnez à cette chaîne, vous augmentez les chances qu'un jour Mikaela sorte de son cocon, alors si vous voulez que ça arrive, pensez à cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo, bon visionnage. Au-delà de ces liens de pratique, on retrouve également des liens au niveau de l'iconographie d'Elphael, la ville de l'arbre sacré, qui semble se rapprocher de celle de la civilisation de Uld. Arrêtons-nous d'abord sur le symbole de Mikaela, ce sceau circulaire représentant l'arbre sacré qui n'est pas sans rappeler celui que l'on semble apercevoir sur les tablettes de pierre, notamment celles portées par les statues de Uld. En bas du sceau, on distingue ses racines qui font écho aux racines se développant le long du corps de ces statues. Ce symbole se répercute aussi sur les branches envoûtantes, ce qui va nous amener à un moment à parler de la faculté qu'avait Mikaela à envoûter les gens, on y reviendra un peu plus loin. Néanmoins, je trouve que cela pose question, est-ce que Mikaela était vraiment appréciée par ses sujets, ou était-ce sa propension à charmer qui lui a permis d'être autant adulée ? À ce propos, j'évoquais également les tablettes de pierre enserrées de racines que l'on trouve au niveau du ventre des trollfouisseurs et qui permettent de les contrôler. Je pense qu'on pourrait attribuer leur création à Mikaela, toujours sur inspiration des travaux de la civilisation de Uld. Autour de ce symbole dont je vous parlais, on retrouve des représentations de sphinx. Le sphinx que l'on va croiser un peu partout dans l'iconographie d'Elphael, un symbole d'érudition bien sûr, mais qu'on va aussi apercevoir au pied de colonnes aux côtés de têtes de mort, et dans ce cas-là, il pourrait représenter le destin funeste depuis la naissance qui attend Malenia et Mikaela. Enfin, je voulais m'arrêter sur ces représentations d'enfants dans un arbre, ce qui rejoint ce que je vous disais sur le sang juvénile qui sert à nourrir l'arbre en lien avec ce qui se faisait dans l'ancienne civilisation. Tout autour de ces symboles se trouvent de nombreuses représentations de motifs floraux, et notamment le lys, qui renvoie évidemment au lys de Mikaela et de Trina, et ça tombe bien puisque c'est justement ce dont on va parler maintenant. Il est communément admis aujourd'hui que Mikaela et Sainte Trina sont en réalité une seule et même personne, et plusieurs éléments viennent en attester. Tout d'abord, comme je le disais, le lys de Mikaela et de Trina, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, mais aussi l'affliction de sommeil qui semble intimement liée à Sainte Trina, et qui n'est pas sans rappeler les facultés d'envoûtement de Mikaela. Sur la description de l'épée de Sainte Trina, qui diffuse justement de la brume soporifique, on y lit que cette dernière était une figure énigmatique. D'aucuns disent qu'il s'agirait d'une jeune fille amène, d'autres sont persuadés qu'elle serait en réalité un jeune homme. Et c'est ce qui finit de convaincre, puisque le côté androgyne de Mikaela était connu et il pouvait aussi bien se faire passer pour un homme que pour une femme. La question est maintenant de savoir pourquoi Michaela aurait-il eu besoin de se faire passer pour une sainte ? Eh bien, selon moi, cela colle parfaitement avec le contexte, puisqu'à cette époque, une religion commençait à se créer autour de Michaela, un pèlerinage de plusieurs peuples vers la terre promise, qu'était l'arbre sacré, et Michaela avait sûrement besoin d'un symbole pour rassembler. Cette idée, on la retrouve justement dans l'iconographie d'Elphaël, avec le coquillage qui revient à de nombreuses reprises, coquillage qui symbolise justement dans la religion chrétienne cette idée du pèlerinage. Au-delà de ça, on peut penser que Michaela avait besoin à cette période de se faire discret, car il était en complète rébellion vis-à-vis de l'Ordre d'Or. D'ailleurs, point de détail amusant, mais toujours dans l'iconographie d'Elphaël, on retrouve à plusieurs endroits des petits diablotins qui seraient justement là pour symboliser ce côté hérétique de l'arbre sacré en opposition avec la religion en place. Cela m'amène habilement à évoquer avec vous le sujet des chandeliers, que vous allez croiser assez tôt dans Elden Ring, puisqu'ils vous guident en général vers des lieux cachés. Le seul endroit où l'on va recroiser de tels chandeliers, c'est à Elphaël, et ce n'est pas pour rien. Si de prime abord on n'y voit rien de particulier, en lisant la description du bouclier du candélabre, on apprend qu'il est considéré comme le symbole d'un intolérable et prophétique péché capital, et qu'il est strictement prohibé. Tout simplement car il représenterait l'arbre-monde dont les branches brûlent. Il ne s'agit donc pas d'un simple chandelier, mais d'une véritable icône de rébellion, rien d'étonnant donc de le retrouver à Elphaël, à une époque où Michaela souhaitait détruire l'arbre-monde. Pour revenir à cette idée de pèlerinage et de pèlerin, on croise à plusieurs reprises des statues d'un sage armé d'un bâton. Difficile de dire qui est vraiment ce personnage, est-ce une représentation de Michaela, de Sainte Trina ou même d'un descendant de la civilisation de Huld ? Difficile à dire. Ça y est, Michaela est à l'apogée de sa puissance, considérée comme le futur dieu de ce nouveau monde, et qualifiée par sa propre sœur comme le plus terrible des Empyréens, d'après la description de son casque ailé en or pur. De nombreux peuples commencent à affluer vers l'arbre sacré, les chimères, des fourmis, des cristalliens, les albinoriques, guidés par Loretta, qui pensent enfin avoir trouvé leur terre promise. Toutes les races de l'entre-terre semblent s'être donné le mot et convergent vers Elphaël. Dans les champs enneigés consacrés, le village liturgique d'Ordina protège l'entrée de cette terre sainte. On y trouve les assassins des couteaux noirs, des numènes, dont on ne sait pas vraiment si elles cherchent l'entrée de la cité ou si elles ont été envoûtées par Michaela et cherchent au contraire à la protéger. Au sommet de l'arbre sacré, on croise des émissaires de l'oracle, ce qui n'est pas anodin. Ce sont des créatures prophétiques qui apparaissent pour annoncer la venue d'un nouveau dieu ou d'une nouvelle ère. Tout semble prêt pour l'avènement d'une nouvelle divinité et la fin de l'Ordre d'Or. C'est dans cette optique que Michaela va se rapprocher des sans-âmes du château de Solcastel. Je vous en parlais dans une récente vidéo, mais de la plus haute tour de Solcastel, on peut apercevoir l'arbre sacré en contrebas. Un esprit nous explique alors que Michaela a donné une mission aux sans-âmes de Solcastel. Il semblait penser que le culte de l'éclipse pourrait, au travers de leurs prières, faire disparaître le soleil au profit de la lune, ce qui entraînerait la disparition de l'Ordre d'Or. Était-ce là la seule raison, ou Michaela avait-il également en tête de sauver son demi-frère et prince de la mort Godwin ? Peut-être voyait-il en ses pouvoirs la possibilité d'enfin se débarrasser de sa propre affliction et celle de sa sœur. J'irai même plus loin dans l'interprétation. Michaela et Godwin semblent être deux personnages endormis. Est-ce inconcevable d'imaginer que ces deux enfants de l'Ordre d'Or aient pu à un moment communiquer via le monde des rêves ? Cela peut vous paraître surprenant, pourtant cela rejoindrait plutôt bien des thématiques que l'on retrouve dans Bloodborne notamment, mais aussi pas mal de contenu coupé de Elden Ring découvert par les data miners. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. En tout cas, il est passionnant de constater l'évolution de Michaela au fil de ce récit, évolution du soleil vers la lune. On est parti d'un enfant lié à l'Ordre d'Or et créateur de l'or pur pour aboutir à un personnage à la philosophie plus proche de celle de la civilisation de Huld et des Nokriens, comme si l'argent altérait l'or petit à petit. Malheureusement pour Mikaela, un événement inattendu va venir bousculer son hégémonie et contrecarrer ses plans. Sa mère Marika va briser le cercle d'Elden et provoquer l'éclatement. L'ensemble des demi-dieux, enfants de la lignée d'or, vont partir en guerre pour s'emparer des fameuses runes majeures, fragments dispersés du cercle d'Elden. C'est en ce sens que Malenia, la sœur jumelle, va se voir obligée de laisser derrière elle son frère, Elphael et l'arbre sacré, pour partir guerroyer en Entre-Terre. Mikaela, de son côté, va choisir de rester et de fusionner avec son arbre sacré, probablement dans l'optique de continuer à le faire grandir. Mais là encore, le plan de Mikaela va être contrecarré, car Mog, son demi-frère et seigneur de sang, va venir le kidnapper, l'arracher à l'arbre sacré pour l'emmener dans son palais Mogwin et tenter d'en faire son consort, mais Mikaela ne répondra jamais à ses demandes. Vous êtes nombreux à m'avoir interpellé sur le fait que le Mikaela se trouvant dans l'œuf ne ressemble plus à un enfant, laissant supposer qu'il n'est plus affligé par sa jeunesse éternelle. Selon moi, l'explication est simple. Lorsque Mikaela a fusionné avec son arbre sacré, cela lui a permis en quelque sorte de renaître dans un nouveau corps, comme un serpent qui change sa mue ou un papillon qui sort de sa chrysalide. Cela explique que son apparence en sortie de cocon ne ressemble plus du tout à son apparence enfantine de base. Mog a en quelque sorte interrompu le processus de renaissance en sortant Mikaela de son cocon trop tôt, d'où cet aspect dans la cinématique d'introduction se rapprochant de celle d'un enfant prématuré. Et oui, vous l'avez peut-être déjà compris, mais le Mikaela que l'on aperçoit fusionné avec son arbre sacré est le corps d'origine de l'Empyréen, alors que ce qui est sorti du cocon est une copie de l'original dans un nouveau corps. Ce processus de résurrection à partir d'un œuf fait évidemment penser à la rune de renaissance de Radagon, offerte en cadeau à Rennala, et on peut peut-être imaginer que cette rune majeure était à la base destinée à son fils Mikaela. Le fait d'avoir été sorti de son cocon trop tôt entraîne que Mikaela ne peut pas survivre à l'extérieur, et il doit donc rester dans ce dernier, là encore comme un enfant prématuré que l'on met sous une couveuse pour lui rappeler l'environnement du ventre de sa mère. Reste à savoir dans quelle mesure les pouvoirs de Mog et du sang de la mère informe lui ont permis ou non de grandir et de se développer. Au début du combat contre Mog, Mikaela semble partager son sang avec ce dernier, ce qui lui permet d'ouvrir en quelque sorte un portail duquel Mog va apparaître. Alors Mikaela est-il encore en vie après ça? Ou est-il seulement endormi? Son histoire sera-t-elle exploitée dans un potentiel futur DLC? Tant de mystères et de questions entourent encore ce personnage. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo, de mon côté c'est un vrai plaisir de pouvoir enfin vous la partager. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous connaissez la musique, la chaîne Twitch, la cagnotte Utip, n'hésitez pas. La prochaine vidéo lore sera celle sur les géants de feu, d'ici là prenez soin de vous, à très vite, ciao.